chômage vous occupe. Le chômage vous préoccupe. Ah, ouais, ouais. Occupez les AMP. Ah, occupez les AMP. Alors qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé, qu'un chômeur indemnisé sur deux touche moins de 3 000 francs par mois, que ces 100 000 jeunes de moins de 25 ans interdits de RMI n'ont droit à aucune indemnité. Les pouvoirs publics de la 4e puissance économique mondiale refusent toujours d'entendre les revendications des chômeurs et des précaires. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être pleins. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être pleins. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être pleins. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être pleins. Après la mobilisation, lors de la négociation de la convention unique, alors que les intermittents de spectacle poursuivent leur lutte pour la défense d'un statut qui apporte un minimum de garantie face à la flexibilité généralisée de l'emploi. Salariés, chômeurs, précaires ou entêtés, ils maintiennent leurs revendications pour la réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire pour un revenu garanti à toutes et tous, au moins égal au SMIC. Et poursuivre leur mobilisation. Poursuivre leur mobilisation. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être pleins. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être pleins.
Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris Pluriel, 106.3 MHz. À 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous. Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes bien sur FPP, dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir ensemble contre le chômage. Nous nous situons toujours au 45 rue d'Aubervilliers et le standard de studio est le 0140 05 06 10. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas nous appeler puisque c'est une émission qui est consacrée aux chômeurs de Clochemerle, un film de Jean Boyer avec Fernandel et qui raconte l'histoire de ce chômeur unique dans son village qui a décidé d'être chômeur et de prendre sa carte de chômeur à la mairie. On se retrouve tout de suite pour des extraits du film et puis les commentaires de Claude et de moi-même, Ludovic. On écoute.
Alors, Tristan, on se promène ?
On fait un peu d'exercice pour se dégourdir les jambes.
Ah, tu sais, mon soleil, moi, la marche, c'est mon sport favori.
Je croyais que tu préférais la chasse.
La chasse ?
Oui, et principalement la chasse prohibée.
Moi ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Fais voir ce que tu as dans le dos.
Ah, c'est un peu de pissenlit pour me faire une bonne salade.
Ouais, une salade. Je parie que ton pissenlit a de longues oreilles pleines de poils.
Bon soleil.
Fais voir.
Non.
Fais voir.
Non.
Fais voir. Je suis le garde, oui ou non?
Ah oui, ça tu es le garde, oui.
Ah, mon cochon, je t'y prends, braconner.
Un braconnet, mais c'est pas du braconnage, c'est un lièvre que j'ai trouvé mort et il faut bien que je lui donne une sépulture.
Oui, tu vas lui en trouver une dans ton ventre.
Ben tu vois, Beau Soleil, j'étais en train de me demander si je ne devrais pas le déposer aux objets trouvés. Parce que comme ça, dans un an et un jour, il deviendra ma propriété. Est-ce que vous avez un frigidaire à la mairie?
Est-ce que tu te fous de moi?
Non, mais si tu aimes le civet, Babette le fait à s'en lécher les doigts.
Je n'aime pas le civet qui contrevient à la loi.
C'est un lièvre accidenté, je t'ai fait remarquer. Et si on le mangeait ensemble? Avec une bonne friture de goujon, une omelette aux champignons.
Tu vis bien pour un simple journalier.
Il faut bien prendre des forces, hein. Allez, on compte sur toi, hein, beau soleil.
À une condition. C'est que je ne saurai pas ce que je mange. Tu entends, Tistin? Je ne le saurai pas.
D'accord. Tu ne le sauras pas, je te le jure sur sa tête.
Je suis avec Claude et nous venons de regarder un film qui s'appelle Le chômeur de Clochemerle avec Fernandel. Un film qui est sorti en 1957 à Paris au cinéma Madeleine, Biarritz et Gaumont-Palace et qui raconte l'histoire du seul chômeur du village de Clochemerle. Claude, alors dis-nous pourquoi tu as eu envie de qu'on regarde de nouveau ce film et qu'on en diffuse des extraits dans l'émission Mode d'emploi.
Alors, j'avais envie qu'on parle de ce film parce qu'en fait, c'est un film que j'ai vu dans mon enfance. C'était une histoire drôle avec Fernandel, qui était le grand acteur comique de l'époque, hein. Et puis, ce film a été bien sûr totalement oublié pendant très longtemps. Et lorsque je me suis retrouvé au chômage, lorsqu'on a commencé à faire de la radio, je m'étais dit, mais c'est quand même marrant, il y avait un film comique qui s'appelait Le chômeur de Clochemerle. On voit un tas de vieux films à la télé et on ne voit plus celui-là. Et bien sûr, alors que tout le monde était dans la rue en 95, en 97, il n'était pas question de ressortir ce film. Et bon, bah, ça me restait un petit peu comme ça. Et puis en fait, le film est sorti chez René Château en DVD. Il est sorti il y a 2 ans. Il n'est plus disponible. Il y a des problèmes de distribution sans doute ou peut-être qu'il n'intéresse toujours pas les gens. Bon, bah, j'ai pu me le procurer et on vient de le visionner dans le but... de voir ce qui m'avait amusé à l'époque, mais surtout de comparer une époque, puisque c'est 57, la sortie du film, ça représente une époque qu'on peut situer. Hein, l'histoire se situe entre 1950 et 1956, donc à une époque qui est le début des Grandes Glorieuses et où il y avait très peu de chômage.
Alors justement, tu peux nous raconter un peu ce film. Donc Clochemerle, c'est un village du sud de la France, un village de vignerons, et puis il y a Monsieur Distin que joue Fernandel, qui décide qu'il va rester au chômage et donc qui va faire des pieds et des mains pour s'inscrire au chômage à la mairie et pour obtenir une carte de chômeur.
Voilà, en fait, dans ce village, il y a aussi un garde champêtre qui a un rôle important et lui, au départ, ne demande pas à être chômeur. En fait, c'est un journalier. C'est-à-dire un travailleur précaire, hein, comme on pourrait. Mais à l'époque, ça s'appelait des journaliers, c'est-à-dire ce sont des travailleurs agricoles que l'on payait à la journée et qu'on embauchait à la journée. Mais lui, en tant que journalier, il travaille vraiment que le minimum de ce qu'il a besoin, donc très peu. Et lorsqu'il rencontre des cantonniers, par exemple, sur la route, et les cantonniers disent « Bah, viens nous aider, on a besoin de main-d'œuvre, il y a du travail », il dit « Oh là là, moi le travail, je le respecte, je le laisse aux autres ».
Je salue les foules au travail.
Viens pas de là, feignant.
Le travail, c'est pas ton affaire.
Ah, écoutez, mon jeune ami, je n'ai pas dit ça. J'aime le travail, mais à petite dose.
À très petite dose.
Oui, à dose homéopathique.
Bonjour, Madame Fadet. Bonjour, Madame Malatois.
Ah, vous ne venez pas tourner par ici pour débaucher Fadet, hein? Espèce de propre à rien.
Qu'est-ce que c'est?
Ah, mais c'est vrai, ça! Il est toujours là, tourné autour de mon mari!
Ah oui, mais c'est comme avec le mien. Ce feignant!
Oh, mais c'est notre deuxième petit enfant de Marie.
Mais restez, Mademoiselle Chavaigne.
Ne me touchez pas! Oh. Vagabond! Loqueteux! Malheureux!
Oh, mais c'est tout un chapelet d'insultes. Le Seigneur vous le rendra, charitable chrétienne.
Allez! Alors!
Bonjour, tout le monde!
Nos enfants!
Qui joue avec vous, Tistin?
Si vous criez comme ça, les enfants, je distribue des gifles!
Dire à ton père! Lâche-moi!
Et toi, Tistin, les énerve pas! Allez, arrive!
Lâche-moi!
Jamais j'aurais dû accepter de m'occuper d'un bohémien comme toi.
Il ne fallait pas me louer une aile de ton château. Allez, passe, intendant.
Donc, les gens du village, puisque c'est un tout petit village, tout le monde se connaît, n'apprécient pas ce comportement. C'est un peu le comportement chanté par Georges Brassens, hein, de la personne qui suit un autre chemin. Il a constamment des réflexions, et ces réflexions déplaisantes le poussent à dire, ben, puisque c'est comme ça, puisque vous considérez que je suis un feignant, eh ben, je vais l'être officiellement, et je vais m'inscrire au chômage. Et alors là, c'est encore plus le scandale, puisque le pays n'a pour l'instant aucun chômeur.
N'empêche, mon képi me donne de l'importance. Oui, je lis les arrêtés dans la rue, moi. Et tout le monde m'obéit, je suis quelqu'un. Tandis que toi, tu finiras clochard.
Comme Saint-Pierre.
Saint-Pierre.
Un rêve que j'ai fait cette nuit. J'arrivais au ciel avec Pronos. Me voilà devant Saint-Pierre. Rien qu'avec mon âme. C'est incroyable ce qu'on peut se sentir à poil quand on n'a plus son corps.
Il ressemble à quoi, Saint-Pierre ?
Ben, comme qui dirait un douanier qui vous demande si vous n'avez rien à déclarer. Ben, que je réponds pas grand-chose, étant donné que j'ai toujours été un travailleur sans vocation.
Tu vas fort avec Saint-Pierre.
À part ça, il me demande, qu'est-ce que tu sais faire ? Ben, un peu tout, un peu rien, vu que j'étais, comment dirais-je, une sorte de chômeur. Chômeur qui me fait Saint-Pierre ? Mais j'étais aussi, moi, autrefois, dans la région de Tibériade. J'ai même été clochard. Regarde où ça m'a conduit, alors qu'Hérode et Ponce Pilate font maintenant de l'anthracite pour le diable.
Il est marrant, ton Saint-Pierre. Ensuite.
Faufile-toi qu'il m'a dit en m'ouvrant la porte. Un clochard, ça finit toujours à l'armée du salut. C'est comme ça que je suis entré au ciel.
Ça ne veut rien dire, ton histoire.
Détrompe-toi, beau soleil. Les paroles de Saint-Pierre m'ont donné une idée.
Une idée ?
Qui va vous épater, toi et ton képi. Tout à l'heure, j'irai à la mairie. J'irai demander une carte de chômage.
T'es complètement fou. Lachemer, elle est peut-être la seule commune de France qui peut se vanter de pas avoir de chômeur.
Eh bien, il y en aura un.
Oh, sacré piste.
Oui, alors c'est là que ça devient intéressant, puisqu'il va faire les démarches à la mairie et qu'on lui répond « Mais monsieur, ça n'existe pas, on n'a pas de fonds pour indemniser les chômeurs. Et puis de toute façon, il n'y a pas de chômeurs donc dans notre village, et on tient beaucoup à ce qu'il n'y ait pas de chômeurs d'ailleurs. » Et aux réunions du conseil municipal, le maire dit « Mais non, c'est très très bien, ça nous fera une très bonne image. » de personnes de communes qui s'occupent des gens sans emploi. Et nous allons donc la pointer sur les fonds de la mairie et lui donner une carte de chômeur. Et là, on commence à voir un peu toute la mécanique, c'est-à-dire il y a à la fois l'autorité qui est culpabilisée par le premier chômeur qui se déclare officiellement comme tel. Et puis, il y a des réactions des commerçants qui disent « Mais c'est sur nos impôts, tout ça, on paye ce monsieur à ne rien faire. » Alors déjà, il y a tout un mécanisme social qui se met en place où finalement le chômeur est tout seul et où il embête peu de gens, mais où déjà il suscite une certaine jalousie finalement et qu'on le taxe de parasitisme.
Mais vous savez bien que notre sénateur-maire n'est jamais là en semaine. Il réside à Paris.
À Paris ? Oui. Ben alors, vous allez m'inscrire.
Comme quoi, vous inscrire ?
Comme chômeur.
Comme chômeur ? Mais à quel titre ?
Mais au titre que je n'ai pas le travail et que j'ai droit à l'indemnité du malheur.
Du malheur ?
Comme à Tibériade.
Tibériade ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? D'abord, nous n'avons pas de fonds de chômage à Clochemerle.
Vous n'avez pas le fonds de chômage. Eh bien, c'est honteux que la commune, ayant un sénateur de gauche à sa tête, soit un pays si rétrograde. On se fout du peuple, voilà.
Ne dites rien, mon ami. On ne demande qu'à vous aider. Hein. La commune va vous procurer du travail.
Du travail. Un fait est humiliant.
Un fait est humiliant. Mais quel est donc le genre de travail qui vous plairait?
Ce qui me plairait. Moi, j'aimerais un emploi d'inspecteur pour surveiller le travail des autres et ne pas commencer trop tôt le matin. Vous avez ça ?
Mais, Distin, cette situation ne correspond pas du tout à ce que vous êtes dans la vie.
Alors je dois renoncer à m'élever. Non, c'est bon. Je mets au chômage. Inscrivez-moi.
La séance du conseil municipal est ouverte. Voyons, messieurs. Nous sommes saisis. Merci.
Nous sommes saisis d'une demande assez particulière. Le nommé Baptistin Lachoux, que nous connaissons tous, réclame une indemnité de chômage.
Non, chômage, tu me plaisanterais.
Ah, il dit ne trouver que du travail infect et humiliant. Voilà, infect et humiliant.
Allons donc, s'il cherchait vraiment du travail, il en trouverait.
Je sais. Cependant, à la réflexion, je vois là l'occasion d'une mesure d'une grande portée, parce qu'elle placerait Clochemerle à la tête du progrès social.
Comment ? Notre ville s'enorgueillit de ne pas avoir de chômeurs ? Et ce propre à rien voudrait changer ça ? Non, jamais.
Mais notre municipalité en aurait le bénéfice devant l'opinion.
Pure démagogie. En tant que chef de l'opposition, je me refuse à nourrir une bouche inutile.
Une bouche est une bouche. Hein, et il y a un ventre dessous. Il faut mettre quelque chose dedans, comme dans la sabille du pauvre.
Les pauvres ont bien souvent mérité leur sort.
Et les riches, ont-ils mérité le leur ? Tiens, je parle des enrichis de naissance comme toi, Laroudel. Messieurs, concluons. Ce chômeur, en quelque sorte symbolique, nous vaudra une excellente publicité sur le plan régional. Et j'ajoute que grâce à lui, je pourrai obtenir des crédits que Paris m'a refusés jusqu'ici. Je mets donc aux voix. Bon, adopté à l'unanimité.
Allez. Comment à l'unanimité?
À l'unanimité, mon cher. C'est pas du bon métier, croyez-moi. Faites-moi confiance.
Je vous fais confiance.
Salut, Pistet.
Salut.
Qu'y a-t-il pour ton service?
Je veux choisir un vélo.
Tu as fait un héritage?
Non, je te paierai à tempérament. 500 francs par mois.
Pas de crédit, Tistin. Une supposition que tu oublies de me verser.
Eh bien, tu fais opposition sur mes salaires.
Opposition?
Eh oui.
Où ça, je fais opposition?
À la mairie.
À la mairie?
Eh oui.
Tu es appointé par la mairie, maintenant? Pourquoi faire?
Pour rien faire.
Rien du tout?
Tiens, voici ma carte de chômage.
Carte d'identité de... Oh! Alors nous allons te payer à rien foutre.
Ah, moi, je vous avertis, monsieur, que je n'accepte pas de crédit.
Ah, ben, elle est forte, celle-là.
Elle est bien contente.
Oui. Hé, hey, Beau Soleil, viens voir par là.
Oui, Beau Soleil, viens, monsieur.
Oui.
Est-ce qu'il y a un Fabel?
Tiens, j'ai déjà vu ça.
Tu vois, je l'ai obtenu.
Sacré Rochard.
À mesure tes paroles, hé, Beau Soleil, je suis ton égal maintenant.
Mon égal?
Fonctionnaire, tous les deux payés par la municipalité. Toi comme garde, moi comme chômeur. À moi la liberté, à toi le képi bourré d'intelligence.
Prends garde, Pistin. Je te prenne pas à travailler seul.
Oh, pour ça, tu peux compter sur moi.
Mais il n'y a rien fait.
Eh oui.
Mais dites, ça va nous augmenter nos impôts. Et ma patente?
Bah, et la mienne. Écrasée qu'on est déjà dans le petit commerce.
Et on viendra se plaindre que le cochon est trop cher. D'aujourd'hui, j'augmente mon saucisson de 50 francs par kilo.
Moi, j'ai préparé une pétition pour protester.
Donnez. Je vais la signer dès demain, moi, votre répétition.
Nous aussi.
Alors, mes hommes vont travailler toute la nuit devant le four pour un inutile.
Et c'est une véritable gabegie.
Ah, oui, alors. Comment vous appelez ça, vous?
Dans la gabegie. C'est un terme que mon mari emploie quand il est en rogne. Donnez. Pour sûr, moi, que je vais vous la signer, votre compétition.
Maintenant qu'il est chômeur, la chose est publique, et là, on se lie carrément contre lui en disant « mais on paye un feignant qui ne fait rien, qui vient nous larguer, et nous, on travaille beaucoup pour fabriquer, par exemple, du pain, et ben ce pain, il n'y a pas le droit, puisque lui ne travaille pas non plus, donc on ne va pas lui livrer le pain. » Et puis, plein de choses comme ça au travers du marché. Même, il se balade dans le marché, il suffit qu'il regarde quelque chose pour que... on dise non, tu n'as même pas le droit de regarder.
Oui, c'est-à-dire que progressivement, il est exclu de la communauté. Il s'aperçoit qu'il y a une forme de marginalité qui naît de sa situation sociale, finalement, et qui relève du regard que les autres portent sur lui, puisque avant, il était plus ou moins chômeur, mais non déclaré, et puis les choses se passaient plutôt bien. Maintenant qu'il a insisté pour l'être, il subit le déclassement, quelque part, de sa situation, de sa condition. Alors effectivement, on voit un moment à la fête où il est exclu, il est obligé de boire de se prendre une cuite pour oublier qu'il est un peu rejeté.
C'est un village de vignerons, tout le monde boit de toute façon. Mais on l'oblige à aller sur une table tout seul. Et donc à boire de manière triste, et non pas en buvant gaiement, en faisant la fête avec les autres, quoi.
Voilà. Et c'est là qu'il rencontre, qui se sert de prostituée au village, enfin une fille de joie, une fille facile, qui elle-même lui dit mais tu n'as pas compris, nous sommes deux marginaux et nous embêtons ces gens finalement. Les femmes, moi je vis des hommes, toi tu vis de la collectivité, où est la différence? Et à nous deux, nous allons faire la foire et nous allons prendre du bon temps. We'll be right back.
C'est la grande foule. Les gens sont venus de tous les environs. Bonjour, Pignaton.
Bonjour, monsieur le maire.
Alors, on se paye un peu de plaisir.
C'est pas tous les jours fête. Sauf pour les chômeurs, évidemment.
Encore un mécontent. Ils sont nombreux à désapprouver la mesure que vous avez prise en faveur de Distin.
Ça s'arrangera, mon vieux. Tout s'arrange.
Oh, mais à toi, on reconnaît pas les amis. Ah, Padé, tu me reconnais, toi.
C'est-à-dire que...
Allez. Oh, vous ça va, hein?
Oh, ça par exemple...
Vous n'avez rien à faire ici, Distin. La vente de charité n'est pas à votre profit. On vous donne déjà assez comme chômeur.
J'ai rien demandé, moi. Mais pourquoi, ça? Voilà,
merci, mademoiselle.
Vous avez du vin vieux, madame Pignaton? Je voudrais...
Vous oseriez acheter du vin vieux avec l'argent de la commune?
Qu'est-ce qu'il y a?
Avec notre argent?
Oh, ma fâche. Alors... Oh, c'est joli, ça!
Allez, allez, vous! Partez! Quelle horreur, cet homme!
Attendez, alors j'en ai peut-être un autre.
Madame Jeannette, je vous dois dire deux mots.
Ne restez pas ici, monsieur Distin, je vous en supplie.
Pourquoi? Écoutez.
Plus tard, je vous expliquerai. Et celui-ci, madame? Je crois qu'il est venu avec
ce petit vivant. Et je l'ai, le chômeur! Si jamais je le prends à braconner, on peut pas en prison!
Oh, faites pas le méchant, beau soleil!
Osez se dire fonctionnaire, comme moi, un loustique pareil.
Allez, pointez, coiffenard.
C'est pas le jeu, voyons. Puisque vous tenez un second, il faut que tu tires, là.
Ah, je vous en prie, Tistin, mêlez-vous de ce qui vous regarde.
C'est malheureux de voir jouer au boule comme ça, vous savez, c'est un bordel.
On sait que vous êtes un bon tireur, mais ces messieurs n'ont pas voulu de vous.
Eh bien, ils ont eu tort, parce que moi, c'est jouer au boule.
Laissez-nous tranquille, on ne peut nous pas faire.
Laissez-vous tranquille,
à vous.
Ah, Don Jésus, toi, tu me tournes pas le dos. On va boire un verre ensemble, hein.
J'ai pas soif, Tistin.
Quoi? Jamais un homme de Clocheverre ne m'a parlé comme ça. J'irai boire tout seul.
Tu bois tout seul pour la Saint-Roch?
Je ne fréquente pas n'importe qui, moi. Voilà. Comme ça.
Je peux m'asseoir, poulet?
Zozote. Fais-tu un verre ici?
Ben, j'espérais te trouver à la fête. J'ai envie de rire et de boire. Adèle, du pinard et du bon. C'est moi qui régale.
Oui.
Allez, partons. Allez, fais-moi rigoler, quoi.
Cœur n'y est pas.
C'est vrai, t'as pas l'air folichon dans ton coin.
Je suis en quarantaine.
Quoi?
Comme chômeur, je coûte trop cher, paraît-il, aux citoyens du Clochemer. Mais ça, je ne pardonne pas.
On est logés à la même enseigne, mon beau. Quand leurs légitimes sont sortis, les hommes du patelin font semblant de ne pas me connaître. Mais moi, je m'en fous. Peut-être qu'à t'en foutre aussi. À nos amours, collègues.
Collègues.
Si moi, je vis des hommes, toi, tu vis de la communauté tout entière. Pas vrai?
Collègues. Sacré collègue. Je serais, comme qui dirait, un fils public.
À ta santé, paria.
À la tienne. Réprouvé.
Oh, dis.
Viens, Zozote. Puisqu'on est dehors la loi, on va s'élever au-dessus des lois.
Même des lois que l'équilibre. Tu pars déjà?
Eh oui, Babette doit se demander ce que je suis devenu.
Oh, dis, t'as pas de compte à lui rendre tout de même.
Non, mais c'est un peu comme si elle était ma mère, je ne veux pas l'inquiéter.
Reste. C'est un homme comme toi qu'il me faudrait.
Tu voudrais peut-être qu'on se mette en ménage.
Pourquoi pas? J'ai besoin d'un compagnon.
Oui. Pour couper du bois, monter le charbon ou frotter le parquet. Je vous connais, vous, les femmes seules. C'est pas tant l'homme que vous aimez. Mais c'est biceps pour faire les gros travaux. Nous aurions bonne mine, alors, ensemble. On crève la faim avec une déclassée.
Oh, tu parles mal, Justin. Hier soir, t'étais plus gentil.
Mais hier soir, qu'est-ce que je t'avais comme biture?
Ben, et moi? Je te dis qu'on est fait l'un pour l'autre.
Non, on aurait tout le pays contre nous.
Ça peut foutre. On irait vivre ailleurs.
Ailleurs? Quitter Clochemerle?
Ben, chômeur, c'est pas un métier.
C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Ah, non, moi... J'aime la rivière, la chasse, la pêche, le ciel. J'aime aller où bon me semble. Je suis incapable de nourrir une femme.
Je travaillerai, Tistin.
Non, je ne mange pas de ce pain-là. Allez, au revoir, Zozote. Et merci.
Et grâce à toi, j'ai eu ma bonne part de fête. Allez, au revoir.
Vous êtes bien sur FPP, dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir ensemble contre le chômage. Nous nous situons toujours au 45 rue d'Aubervilliers et le standard du studio est le 01 40 05 06 10. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas nous appeler puisque c'est une émission qui est consacrée au chômeur de Clochemerle, un film de Jean Boyer avec Fernandel et qui raconte l'histoire ce chômeur unique dans son village qui a décidé d'être chômeur et de prendre sa carte de chômeur.
Ah, te voilà, Tista. Justement, j'allais chez toi. On m'a raconté ta conduite à la fête.
Ah, j'ai eu tort, ça, je le reconnais, monsieur le curé, mais si j'ai mal agi, ce n'est pas tout à fait de ma faute.
Non, c'est peut-être de la mienne. Allez, viens.
Où on va, monsieur le curé?
Oh, pas au confessionnal, bien sûr. Tu ne m'y suivrais pas. Mais quelque part où tu pourras aussi te confesser. Allez, où?
Bonjour, monsieur le curé.
Bonjour, ravissez. C'est toi qui m'as fait apprécier le vin de ton pays. À mon tour de te faire apprécier les bienfaits de mon ministère.
Je sais ce que vous allez me dire.
Non, tu ne le sais pas. J'ai entendu parler de mes paroissiens. Pour eux, tu es un dangereux anarchiste.
Signé la Roudelle.
Tu donnes un exemple pernicieux.
Signé Fadet.
À cause de toi, la société se décompose.
Signé Chavagne.
Tu es un coureur, un ivrogne et un débauché.
Signé Pauline Coton.
Tu sais ce que dit Beausoleil?
Oh, c'est là qu'il a eu se faire. Oh, pardon.
Et il dit qu'en haut lieu, il est question de te retirer ta carte.
Il a dit ça? Je vais lui casser la gueule.
Oui, mais ça ne rajoute rien. Pourquoi tu fais tout ce scandale?
J'avais trop bu.
Cette zozote.
C'est la seule qui m'ait parlé gentiment. Et puis c'est une fille, il y a de la conversation. Hein. Figurez-vous que cette nuit...
Alors je ne te demande pas de détails.
Ah non?
Tu t'es très mal conduit, Tistin.
Ah, je le regrette, monsieur le curé, mais pourquoi tout le pays est braqué contre moi?
Je ne crois pas trahir le secret de la confession en te disant que ce sont surtout les femmes qui t'en veulent.
Et qu'est-ce que je leur ai fait?
Et rien. Non, leur mari travaille. Toi, tu te tournes les pouces à leur frère.
C'est de la jalousie. La jalousie, c'est pas beau. T'empêcher.
Oui, certainement. N'empêche que tu veux vivre autrement que tout le monde.
Ah, moi? Mais je n'ai pas un fifrelimbe, pas un pied de vigne.
Si le pauvre a l'air d'être heureux, les riches ne peuvent pas le supporter.
Et alors, monsieur le curé?
Alors, trouver une solution. J'aime les bougres qui tranchent sur l'ordinaire. Tu en es un. Malheureusement, tu es en train de perdre la partie. Et je n'aime pas miser sur les perdants.
Comptez sur moi. Je vais tâcher de regagner la sympathie générale.
Je te fais confiance, mais c'est la dernière fois.
Mon père, vous êtes un frère pour moi.
On sent bien une joie d'être sorti de la servitude, finalement, du travail et des contraintes obligatoires, et effectivement de vivre une marginalisée, de se donner du bon temps pour compenser cette marginalité. Alors, il y a aussi un dialogue avec le curé, avec le nouveau curé, qui est très très intéressant, puisque c'est un curé plutôt libéral, plutôt, on lui dit, vous êtes un démocrate chrétien, monsieur le curé, et qui lui dit, mais vous savez, il ne faut pas que les pauvres montrent qu'ils soient heureux, parce que ça enlève le plaisir aux riches d'être riches. Alors, faites un peu attention à ce que vous faites, parce que sinon, vous allez être un anarchiste, on va vous taxer d'anarchiste. Il faut que vous soyez chômeur, certes, mais tenez-vous bien.
Voilà, et ce nouveau curé qui, lui, vient d'une ville où il y avait quand même plus de chômeurs, même malgré l'époque qui fait que le chômage ne durait pas longtemps, puisqu'on était en pleine croissance, en pleine reconstruction. Hein. Donc ce curé a déjà vu aussi, lui, la vraie misère. Il se rend compte que là, c'est pas très grave, en fin de compte. Ce qui est dangereux, c'est ce désordre qu'il y a dans ce village, hein, qui est provoqué par cette affaire. Et il prend un petit peu donc notre héros à part et lui dit, bah voilà, t'as le droit d'être chômeur, mais il faut pas se comporter comme ça. Et puis vis-à-vis des gens, bah les gens t'aiment pas, mais si tu leur rends de temps en temps un petit service, ils t'apprécieront et ils te verront plus du tout de la même manière.
Oui, alors, et ce qui est intéressant, parce qu'on sent quand même qu'il y a une prise en charge collective hein, du chômeur, ou il y avait une prise en charge collective du chômeur, et le fait de devenir chômeur d'État devient un vrai problème finalement pour la collectivité, puisque on a un chômeur en marge, en fait, on a quelqu'un qui est tout à fait en marge. Et à partir de ce moment-là, il va se mettre à travailler, mais à travailler pour rendre des petits services, à droite, à gauche, au centre, pour être là automatiquement, quand les gens ont besoin de lui, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que finalement on a bien besoin d'un salarié de l'État qui rende service gratuitement pour réparer un peu les petits désordres du village, et il devient quelqu'un de très très demandé, et on le paye en nature, et son travail c'est donc de rendre service finalement, beaucoup plus de rendre service et de faire plaisir que de travailler pour lui-même et pour obtenir un appointement à la fin de son labeur.
Oui, au départ, c'est pour répondre à la demande du curé, et puis il s'aperçoit tout de suite que ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens à qui il a rendu service le considèrent, lui disent bonjour, il retrouve une place dans la société, en fait. Hein. Il n'est plus tout à fait exclu, même s'il est un petit peu à part. Il travaille sans être salarié, bien entendu, mais comme c'est à la campagne, c'est une bouteille de vin, c'est un plat bien cuisiné, c'est un pâté, c'est... Voilà. Ce qui fait qu'il arrive même à faire des économies.
Oui, d'ailleurs, économies qui vont lui apporter beaucoup d'ennuis, puisque c'est le début du travail au noir, finalement, puisque grâce à ça, il va pouvoir ouvrir un compte en banque, et peut-être un des premiers du village à ouvrir un compte en banque, qui suscitera évidemment beaucoup de jalousie autour de lui.
Vous n'allez pas vous tuer, Madame Pignaton ? Pas pousser cette brouette jusqu'à la voie !
Et qui c'est qui me la poussera si je ne le fais pas ?
Moi ?
Vous ?
Si vous le permettez. Je vais justement par là. Oh, mais dites, elle est lourde, hein ?
Oh, ben je crois bien, ça m'emporte les épaules.
C'est pas un travail de femme, ça, il faut une force d'homme.
Ouais, les hommes, ils aiment mieux aller vider un pot que de venir nous aider.
Oh, pas tous, quand même.
Ah, il y en a peu comme vous, Stein. Ah. Vous êtes un brave chômeur. Ah, c'est gentil, très bien.
Vous me suivez, hein ? Voilà qui est fait, Madame Malatoise. J'en ai profité pour changer le tuyau de caoutchouc qui était cuit. Regardez ça. C'est...
Mais c'était dangereux.
Non, vous pouvez vous asphyxier d'un moment à l'autre.
M'asphyxier?
Vous savez, le gaz, il a vite fait de vous endormir. Il ne prévient pas. C'est une mort douce, remarquez.
M'asphyxier? Mais alors, je vous dois quasiment la vie. Tenez, mon brave, emportez cette bouteille de vin. Vous l'avez bien mérité.
Mais vous travaillez donc, Pistin ?
Ah, qu'est-ce qui peut m'empêcher de rendre service à des personnes qui me sont sympathiques ?
Eh ben, il m'en prête plus que ça,
comme
vous en empêche.
Je comprends qu'il m'en prête plus que ça, comme on voyons. Alors, demain à 8h, ça va ?
Ça va, merci.
À 8h demain.
Attendez, Pistin, tu prépareras un bon petit déjeuner ?
On mange une petite tasse de café seulement, sans cuillère, avec le petit goût de ma fesse, ça coule bien. 4, 5, 6, 7...
Comment ? Tu as encore au lit ? Caroline Gage t'attend pour la réparation de son séchoir. Et Claudine Soupia pour son frigidaire. Et aussi noter des rendez-vous pour l'après-midi.
Ah oui, mais enfin, ben pas de ces dimanches aujourd'hui. Je vais pas me tuer au chômage, moi. 8, 9.
Qu'est-ce que 10. C'est que tout ça ? T'as dévalisé une épicerie ?
Mes derniers petits profits.
Des œufs, des boîtes de conserve, un saucisson, du vin. Ah, je vois qu'elles te gardent, ces dames.
Une paire de chaussures presque neuves. Un pantalon. Et ce n'est pas tout. Tiens. Regarde.
Combien ?
Presque 20 000 francs d'économie en 2 mois.
J'en ai jamais gagné autant comme laveuse. Te voilà capitaliste, Istin. T'as pas peur qu'on te vole ?
Voler un chômeur ? Oh, tu veux rire ?
Oh, c'est égal. À ta place, j'irai déposer cet argent à la caisse d'épargne ou à la banque.
À la banque ? Chez des gens que je ne connais pas.
Comment le trouvez-vous ?
La fuite, ce n'était rien. Simplement un collier serré. Mais il faudra surveiller ce vin-là. Vous avez des tonneaux qui sont en train de se piquer. Il faudrait soutirer.
Mais je n'ai personne pour s'en charger.
Est-ce que je ne suis pas là, moi, Madame Jeannette ? Combien faites-vous de pièces dans l'année ?
J'ai fait 8 pièces l'an dernier. J'en aurais fait le double si je n'avais pas négligé les sulfatages.
Oh, c'est que c'est très important, les sulfatages.
Oh, je sais bien. Mais je manque de main-d'œuvre.
Ah oui ? Je vais vous en trouver, moi, de la main-d'œuvre. Et de la main-d'œuvre que vous n'aurez pas besoin de surveiller.
Vous
pour moi tout ça?
Oh, il y en a pour deux. L'envie m'est venue de faire un pique-nique.
C'est une très bonne idée. Je connais un endroit à l'ombre.
Oh, j'ai tout mon temps.
Oh, c'est que je ne savais pas que vous alliez venir. Et j'ai pris rendez-vous avec Cora Bocquier.
La grosse Cora?
Oui.
Et c'est urgent?
Ah ben, c'est elle qui le dit.
Vous la croyez?
Oui, maintenant. Venez.
Je vous dis, mesdames, que je ne sais pas où est Istin.
Mais j'ai besoin de lui.
Mais nous aussi. Nous aussi.
Vous n'avez pas idée où je peux le trouver?
Non, même Pignaton. Mais c'est quasiment indispensable dans le pays, un chômeur.
Et avec ça qui les servient.
Et amusant.
Et adroit comme un singe.
Si je vous disais que pour planter un clou, vous entendez bien, un clou, il faut que j'attende des mois pour que mon mari se décide. C'est bien pour ça que notre Istin nous est si précieux. Nous y attendrons.
Voilà. Il faudrait tout de même pas que cette Jeannette nous l'accapare.
C'est pas parce qu'elle est veuve, celle-là.
Oh, je vous en prie, mesdames, laissez Jeannette tranquille. C'est une bonne petite. Bien méritante. Et puis elle vit toute seule, elle.
Oh, ben qu'elle se cherche un homme, bon sang, mais qu'elle nous laisse notre chômeur.
Parfaitement. Notre chômeur.
Notre chômeur.
Attention, madame Jeannette. Voilà qui est fait. Il ne pleuvra plus dans votre remise.
Depuis que je vous ai vu sur le manège, je ne pense plus qu'à vous.
Si je racontais ça à ton curé, tu pourrais changer de paroisse.
Vous m'avez mis le feu dans le sang.
Eh ben, prends une bonne douche, mon gars.
Si j'avais des économies, je vous les donnerais toutes. Je ferais n'importe quoi pour vous avoir.
Les hommes me dégoûtent tous, tu entends? Je crache dessus. Écoute-moi, sacristain. Si tu reviens un soir que je serai disposée, tu feras bien d'apporter beaucoup d'argent. Tu m'entends? Beaucoup. Mais aujourd'hui, fous le camp!
Mais je...
Oh! Mesdames, venez voir! On a fracturé le tronc de Saint-Roch!
Saint-Roch? Mais c'est pas possible!
C'est abominable! Il faut prévenir monsieur le curé tout de suite! Regardez! Je suis venue pour mettre un siège!
Mesdames! On a fracturé le tronc de Saint-Antoine de Padoue!
Oh! Oh, quel est le misérable qui a pu...
Je m'en doute, monsieur le curé! Moi aussi!
Hein? Expliquez-vous, mademoiselle.
Mais c'est le chômeur, monsieur le curé.
Oui, c'est le chômeur.
Oh, mesdames, vous portez là une accusation grave.
Posez de l'argent à la banque.
L'argent que j'ai économisé en travaillant, n'est-ce pas, Babette?
Parfaitement.
En travaillant? Tu avoues donc que tu travaillais?
Il veut dire en se rendant utile.
Ah, vous, la Babette, silence! Ou je vous arrête comme complice! Oh bon Dieu, j'arrête tout le monde. Alors, tu reconnais que chômeur, tu recevais un salaire.
C'est pas un salaire, c'est des offrandes.
Des offrandes. Ouais, comme Saint-Roch. Eh ben mon bonhomme, tu viens d'avouer, ton compte est bon.
Alors progressivement, le film glisse, hein, puisqu'on on se rend compte, ou sans le dire, qu'être un chômeur à vie, ce n'est pas possible. Hein. C'est un peu la morale du film, c'est-à-dire que à un moment il trouve quelqu'un, il faut qu'il aille avec, et puis il y a sa vulnérabilité qui fait de lui quelqu'un en cas d'affaire dans le village qui est très vite accusé de tous les maux, et il finit par se dire je me demande si un chômeur en plus du maire et du curé et du sonneur de cloche, plus un chômeur, est-ce que ça n'en fait pas un de trop? Et puis à la fin du film, il déchire sa carte de chômeur. Alors là, il y a toute la morale du film, hein, et la morale de l'époque aussi.
Oui, toute la morale de l'histoire, c'est bien sûr que le chômage est une mauvaise chose. Le personnage est rentré dans le rang, il est apprécié, et puis il a rendu tellement de services dans ce petit village où le modeste maire devient ministre ou sous-ministre. Donc, un peu pour récompenser tout le monde, pour rehausser aussi la valeur du village, il est amené à lui donner la médaille du travail. C'est-à-dire qu'il a encore sa carte de chômeur à la poche. Et pour service rendu à tout le village, on lui donne une médaille d'honneur du travail.
Oui, c'est un moment exceptionnel, puisque finalement, c'est le seul chômeur qui est récompensé pour des services réels qu'il a rendus. Il y a quand même toute une morale, une discussion sur cette question de l'utilité du chômeur, puisque ce chômeur, on avait vraiment une, finalement.
À un tel point, et là, il manque quelque chose au film. Le film s'arrête là, forcément, il dure 1h30, ça se termine comme tous les films de l'époque, c'est un film qui se termine bien, tout le monde est heureux, il va se marier, il va avoir un enfant, le village fait la fête, et le maire est devenu ministre. En fait, on pourrait s'imaginer une suite à ça, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus le chômeur, donc il n'y a plus la personne qui rend service aux gens. Puisqu'il est obligé de reprendre un travail, et ce travail, ben, il va être employé quelque part et il ne pourra plus faire tous les petits services, ne serait-ce que transporter la brouette pleine de linge que la vieille dame ne pouvait plus porter, surtout que c'est un village en Provence avec des rues en pente. Et donc, et ben là, on peut s'imaginer quand même que le village, il va manquer quelque chose, quoi.
Donc voilà, le village a peut-être gagné un nouvel employé municipal.
De notre cher ministre.
Merci, merci.
Et merci, votre santé.
Merci, mes enfants, à votre santé également, à tous, merci.
Je vous félicite, monsieur le ministre.
Ah, permettez, sous-secrétaire d'État au travail, ça n'est pas ministre.
Oh, pour une fois, je suis d'accord avec toi, Laroudel. Ma bonne Babette.
Monsieur le maire. Oh, pardon, monsieur le ministre, notre chômeur est là.
Oh, eh bien, fais-le entrer.
Allez,
ah, te voilà enfin.
Ah, c'est pas moi, hein. Ah, je sais pas ce qui est arrivé, mais c'est pas moi.
Tais-toi donc, grosse bête.
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Baptistin Lachoux, je te décerne la médaille du travail pour les mérites que tu t'es acquis par ton labeur.
Moi, mais je n'ai jamais travaillé.
Notamment durant ta période de chômage, pendant laquelle tu as fait preuve du plus pur dévouement au bien public. La tradition voudrait que je te donne l'accolade, mais je connais quelqu'un dont le baiser te fera beaucoup plus plaisir.
Alors, on a raconté le film, peut-être que qu'il serait intéressant maintenant de le mettre en parallèle avec ce qu'on vit à notre époque. Alors, selon toi, qu'est-ce qui, dans cette vision, relève d'une espèce d'idéalisme, d'idyllisme, ou qu'est-ce qui a vraiment changé dans la condition du chômeur? Parce que finalement, dans le film, on voit bien que le regard sur le chômeur n'a pas tant changé que ça, que le mécanisme qui se met en marche, donc dès 1957, sera quelque chose qui sera appelé à se généraliser finalement. Est-ce que tu as peut-être une réflexion par rapport à ce qu'il y avait à l'époque et ce que beaucoup d'entre nous ont vécu dans les années 90-2000?
Alors, la première réflexion, c'est qu'en fin de compte, le regard des autres vis-à-vis du chômeur n'a pas changé. Hein. Le côté qu'on a actuel, hein, qui est régulièrement dit, alors plus pour le RMI, parce qu'en ce moment, c'est plus le RMI qu'on met en cause, le côté chômeur feignant. C'est-à-dire qu'on a beau dire, et on enfonce le clou en disant « non, il y en a qui cherchent du boulot ». Mais à chaque coup qu'on dit « il y en a qui cherchent du boulot », ça sous-entend « oui, mais s'il y en a qui cherchent du boulot, il y en a qui n'en cherchent pas ». D'une manière générale. De même que lorsque Sarkozy, puisque ça fait partie maintenant de notre générique, dit « tous les chômeurs ne tirent pas sur les flics », ça peut sous-entendre « certains chômeurs tirent sur les flics ». En fait, même s'il y a eu des gens qui ont tiré sur des flics, c'est pas forcément des chômeurs, et puis on n'en sait rien. Ça n'a aucun rapport, en fait. On aurait pu dire, tous les boulangers ne tirent pas sur les flics, parce qu'on ne sait jamais, des fois qu'on retrouve le gars qui a tiré, si jamais il était boulanger, ça va être une catastrophe. Enfin, voilà, donc c'est des phrases totalement stupides, mais c'est bien ancré, et ça n'a pas changé, en fin de compte, le côté chômeur feignant, et donc parasite, c'est-à-dire en dehors de la société, on va l'avoir sur le dos, c'est nous qui allons payer, et lui, il a la vie belle. Alors, bien sûr, dans le film, qui est un film quand même comique, hein, faut pas, c'était fait pour divertir les gens, oui, on le montre avec la vie belle, c'est-à-dire qu'il se contente de peu de choses, et de temps en temps, eh ben, il braconne un lapin pour manger du lèvre.
Oui, mais quand même, sur cette question, on sent quand même qu'il y a derrière un vrai choix de vie. Alors là, évidemment, c'est représenté par Fernandel dans un village du sud de la France où rien ne manque. Mais il y a quand même un choix de vie de ne pas consommer, particulièrement d'abord de vivre avec peu. Puis un choix de vie de garder aussi sa liberté, de de ne pas travailler ou de faire autre chose, de prendre du temps, son temps aussi pour vivre. Et c'est une philosophie que certaines personnes aujourd'hui ne retiendraient pas, même si aujourd'hui on pourrait plutôt dire que c'est subi plus que choisi. Voilà, c'est un passage du chute, voilà, qui est subi et qui demande adaptation. Adaptation à ce mode de vie-là, c'est-à-dire un mode de vie qui est la sous-consommation et le vécu, le vivre chichement, en quelque sorte, hein, le vivre en fonction de ses besoins.
On peut remarquer, justement, qu'est-ce qui est nouveau dans notre période, hein, dans notre époque, par rapport à la période de 1957-60, enfin des Grandes Glorieuses. C'est que, bien sûr, il y a toujours à l'heure actuelle des gens qui peuvent choisir un autre mode de vie, demandant moins, n'aspirant pas à consommer plus que simplement pour se nourrir et se vêtir décemment, mais pas plus. Mais il y a aussi, et ça c'est une chose qu'il n'y avait pas justement à l'époque de la Reconstruction, hein, c'est des gens qui sont contraints à ça. C'est-à-dire des gens qui souhaitent avoir un métier, qui souhaitent travailler le temps qu'il faut sans aller jusqu'à l'extinction. Mais ces gens, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau depuis 1990-93, on va dire. Hein, c'est l'année noire. Hein, sont totalement contraints à vivre cette vie-là. C'est-à-dire que ils avaient un emploi, on leur a retiré. Ils étaient dans une branche ou dans une profession qui n'existe plus et qui existe dans d'autres pays, mais qui n'existe plus parce qu'on a décidé de délocaliser. On leur a fait subir une formation en disant « mais ça fait rien, vous allez vous reclasser ». Une fois que ces gens ont eu la formation, on dit « ah ben oui, mais on n'en a toujours pas besoin ». Et puis en fin de compte, si on ne veut pas réduire le nombre d'heures, les gains de productivité sont tels que l'on devrait avoir moins besoin de travailler. Alors, question d'organisation du travail, est-ce qu'on ne devrait pas partir en retraite plus tôt et travailler toujours un certain temps, ou est-ce qu'on ne devrait pas travailler 3 ans, se reposer une année simplement, et tout en travaillant avec... parce qu'on va considérer qu'en fonction du travail, si on travaille que 5 heures par jour, par exemple, ça n'a pas le même impact, le même rendement, la même efficacité que de travailler 8 heures par jour pour correspondre à un certain besoin. Pourquoi pas? Mais toujours est-il que les gains de productivité font que à moins d'avoir une croissance extraordinaire, une croissance, c'est-à-dire de produire plus de produits qu'on en a besoin, c'est-à-dire de produire plus de blé qu'on en a besoin, c'est-à-dire de produire un tas de machines qui ne nous servent à rien, éventuellement, à part faire une croissance comme ça, qui en plus ne pourra pas vivre d'elle-même, puisque ça sera des choses surabondantes et que ça va être inflationniste, en fait, mais c'est...
C'est déjà le cas, sur abondance de blé...
Oui, c'est déjà le cas, bien sûr.
La vraie question, effectivement, hein, c'est le chômage subi ou le chômage choisi, puisque c'est tout le thème du film, hein, et c'est le thème aussi contemporain, le débat contemporain, même s'il y en a d'autres qui se surajoutent. Il y a aussi il y a un dialogue formidable, hein, dans le film où notre futur chômeur dit « Mais moi, vous savez, j'ai pas envie de faire un boulot qui soit humiliant, dégradant, et je voudrais être quelqu'un qui contrôle le travail des autres, l'inspecteur du travail. » Et le secrétaire général de la mairie lui répond « Mais enfin, monsieur, ça ne correspond absolument pas à votre statut social. » Et c'est une réponse qui est extraordinaire, c'est-à-dire que vous, monsieur, journalier, vous n'avez certainement pas les qualités pour travailler dans les bureaux et pour organiser notre vie. Vous êtes un producteur. Et on retrouve quand même cette forme de débat auprès des jeunes, hein, qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que je vais faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire un métier qui soit relativement intéressant, qui soit relativement où il y a une certaine initiative, ou est-ce que je vais devenir finalement un simple producteur? Et quand on dit un producteur, ça peut être dans le bâtiment. Donc un sous-producteur, et là il faut prendre les métiers où il y en a, ou voir un producteur dans l'informatique, c'est-à-dire être payé à la ligne. Puisque le salariat se porte mal, le salariat devient aussi une forme de contrainte, d'esclavage, au sens où on pressure énormément les gens, au point de leur faire perdre leur valeur, leur sentiment de travailler pour se construire. Oui, pour revenir aux banlieues... Il faut quand même, on peut discuter des émeutes, hein, tout ça, mais y a quand même une, on a connu quand même plusieurs périodes où le chômage de masse conduisait effectivement à des émeutes récurrentes et à des émeutes populaires, comme on disait à l'époque, qui étaient assez dévastatrices. Donc, il y a le cas de la Révolution française, qui est bien connu, mais aussi le cas de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, qui a été asséché. Et le chômage de masse finit par provoquer du désordre, de toute façon. Donc c'est pas tout à fait illogique de faire le lien entre pauvreté et chômage d'une part, et violence urbaine et populaire de l'autre, me semble-t-il.
Oui, bien sûr, il y a sans doute une raison, c'est-à-dire que le chômage étant une exclusion vis-à-vis des autres, hein, les gens qui sont au chômage, de toute façon, bah, sont soupçonnés de tous les maux, et en plus des difficultés financières, ils sont mal vus de la société. Et quand il est de masse, bah, quand il est de masse, forcément, que quelque part, ça permet aux gens qui sont dans cette situation de dire, mais non, c'est pas vrai, c'est le sort de la vie qui a fait ça, c'est aussi la volonté peut-être politique de l'organisation, et si en plus ce taux de chômeurs important se trouve localisé au même endroit, bah, ça a tendance à faire faire un agglomérat de gens qui va se révolter, et effectivement, c'est... Alors, Révolution de 89, c'est pas tout à fait le chômage, c'était quand même plus la famine que le chômage, hein, quand même. Parce qu'à l'époque, on pouvait travailler pour pas manger. C'est autre chose. Maintenant, effectivement, le chômage engendre pas totalement la famine, puisqu'il y a, quand même des associations qui sont là. En fait, le gouvernement se repose beaucoup sur ces associations pour faire en sorte que les gens, enfin, pas tous, en tout cas, crèvent de faim. Parce qu'il y a quand même des morts de faim. Mais c'est quand même des situations qui sont intolérables. Qui sont intolérables et qui sont de plus en plus difficiles sûrement à supporter psychiquement.
Oui, il y a l'espèce de culpabilité quand on est chômeur. Ça, c'est important. L'impression aussi de rater sa vie. C'est aussi important de perdre du temps. Et puis, il y a le déclassement. Et le déclassement, c'est une condition qui consiste aussi à se voir dans l'œil du voisin et à se sentir un peu resté sur le quai. Bon, et j'en passe, la sous-consommation, la capacité de construire sa vie. Pour prendre toujours l'exemple des banlieues, je crois que le taux de... Il y a une personne sur deux qui vit chez ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans. Un trentenaire sur deux. Donc c'est des statistiques qui sont effrayantes. À 30 ans, normalement, on est dans le plein âge du travail. Bon, bah, pas en banlieue, quoi. Donc il y a toute cette souffrance vécue et tue, mais qui à terme, finalement, la masse de ces gens paupérisés est obligée de s'adapter. Donc effectivement, le travail au noir, les combines, la débrouille, devient le quotidien. Et là, on a effectivement un discours de gens qui ont du travail, qui sont privilégiés, qui sont bien contents d'avoir échappé au chômage, qui tout d'un coup, jalouse finalement, retourne, après avoir échappé à ce fléau, retourne leur part de jalousie, non, bah voyons, nous on travaille et puis ces gens-là, finalement, ils s'en sortent pas si mal que ça en ne travaillant pas. Donc en fait, finalement, on oppose deux classes distinctes de la société pour en choisir entre l'une ou l'autre, en quelque sorte.
Il me semble aussi, parce que moi je l'ai constaté dans le langage des gens, certains chômeurs se vantent d'être chômeurs, j'en ai rencontré. Oui, mais moi, ça me plaît pas de travailler, et puis je me débrouille tout seul, et puis j'ai pas besoin de ça. Et quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que c'est aussi une manière d'être, c'est-à-dire un comportement en réaction pour faire croire aux gens que c'est voulu, que l'on n'en souffre pas, et en fait, c'est simplement une apparence, et en réalité, ce n'est pas voulu, et ces gens en souffrent. Mais vis-à-vis des gens dans la rue, au café, simplement, si ces gens apprennent que, ben tiens, dans le fond, le gars, comment ça se fait qu'on l'a vu l'après-midi, là, ben c'est donc qu'il est au chômage, eh ben, c'est plus facile, des fois, pour lui, de dire, ouais, moi, c'est comme ça, je suis libre, toi, t'es en train de bosser comme un con, et puis moi, et en réalité, il aimerait bien bosser comme un con, c'est simplement une manière d'être, de présenter, voilà, pas une manière d'être.
Voilà, c'était une émission un peu particulière de Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel. C'était donc la projection du film Le Chômeur de Clochemerle, un film de Jean Boyer avec Fernandel qui date des années 50 et qui parlait, vous l'aurez compris, du chômage juste avant cette nouvelle année qui, nous l'espérons tous, s'annoncera bonne pour tout le monde. Voilà, c'était Ludovic et Claude pour Mode d'emploi et FPP. Bonne année à tous.
Voilà, au revoir.